Vous êtes sur Radio Grand Ciel avec Janine Rogers pour l'émission A Cup of Tea sur les écrivaines anglaises. À la technique, Simon Martin. Ivy Compton Burnett appartient à la même génération que Virginia Woolf, dont nous avons parlé au cours des deux dernières émissions. Comme elle, mais ainsi que nous le verrons, de façon très différente, elle incarne le renouveau du roman anglais du XIXe siècle. Nathalie Sarraut avait pour elle une grande admiration. Virginia Woolf, au contraire, ne l'appréciait pas, leur monde, leur genre de vie étant aux antipodes. Ivy est née dans le Middlesex en 1884. Son père était un médecin homéopathe très connu. Très tôt, elle perdit sa mère et son père se remaria. Elle souffrit beaucoup de l'autoritarisme de sa belle-mère. De ces deux unions naquirent 12 enfants. Ivy fut instruite à la maison par deux de ses frères jusqu'à l'âge de 14 ans. Après quoi, elle fut envoyée au collège. Puis à l'Université de Londres. Les deux grandes universités d'Oxford et de Cambridge ne délivrant pas de diplôme aux femmes. S'ouvrit alors une longue et difficile période pour Ivy. Son père mourut alors qu'elle avait 16 ans. Deux de ses frères disparurent aussi, l'un des suites d'une pneumonie, l'autre tué pendant la guerre mondiale à la bataille de la Somme. Deux de ses sœurs se suicidèrent ensemble le jour de Noël 1917. Ensuite, on sait peu de choses sur sa vie privée. Vers 1920, elle s'installa à Londres avec sa compagne, la journaliste Margaret Jourdain, spécialisée dans l'art de l'ameublement. Les deux femmes vécurent 30 ans ensemble dans le même appartement jusqu'à la mort de Margaret en 1951. Puis Ivy continua à vivre au même endroit jusqu'à son décès en 1969 à l'âge de 85 ans. Elle était athée et son corps fut incinéré. Interrogée sur sa vie, elle répondit « J'ai eu une vie sans histoire. Il n'y a pas grand-chose à en dire. J'ai été élevée à la campagne avec mes frères. Et puis, j'ai fait mes études à Holloway College où j'ai obtenu un diplôme universitaire de lettres classiques. J'ai vécu dans ma famille quand j'étais jeune, mais pour la plus grande partie de ma vie, j'ai vécu dans mon appartement à Londres. J'ai des amis qui ne sont pas tous écrivains. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. » Fin de citation. C'est volontairement omettre les tragédies de son adolescence. Elle était toujours vêtue de noir et ses portraits montrent une femme au visage sévère. 2 ans avant sa mort, elle fut anoblie par la reine Élisabeth et devint dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Dans ses œuvres, elle créa un style particulier, privilégiant les dialogues, ce qui les rendit faciles à être adaptées à la radio. Ces pièces de théâtre radiophonique eurent un énorme succès en Grande-Bretagne après la guerre. Parallèlement, ses descriptions de personnages et de lieux sont très réalistes et laissent peu de place à l'imagination du lecteur. Pour illustrer ceci, je vais citer un passage de « Ma famille et une fortune » paru en 1939. Par ordre d'entrée sur scène, et j'emploie volontairement ce mot de scène, car le roman est construit comme une pièce de théâtre. Donc, nous trouverons par ordre d'entrée Madame Blanche Gaveston, 60 ans. Justine, 30 ans, son unique fille, l'aînée des 4 enfants. Ses 3 fils, Marc, 28 ans, qui aide son père dans la gestion du domaine. Clément, 26 ans, Diplômé de l'université de Cambridge, il voudrait devenir lui-même professeur d'université. Et Aubrey, 15 ans, qu'on dit faible d'esprit. La suite du récit montrera qu'il est beaucoup moins que ce que la famille veut faire croire. Le mari et père, Edgar Gaveston, et enfin le frère cadet de Edgar, Dudley, qui jouera un grand rôle dans le roman. Donc voici un passage. La famille est à table, la famille Gaveston est à table pour le petit déjeuner. Cette omelette rompt à coup sûr avec la tradition, dit Clément. Absolument pas, dit Blanche. Aussitôt, sans regarder ni percevoir dans ses paroles autre chose qu'un reproche. Elle est très bonne et très nourrissante. Clément parle en connaissance de cause, dit Aubrey en jetant un coup d'œil à l'assiette de son frère. Pourquoi manges-tu si tu n'aimes pas ça ? Demanda Marc d'un ton qui n'avait rien d'incisif. J'ai faim. Il faut bien que je mange. Tiens, voilà du jambon, dit Justine. Clément va manger de la chair du porc, dit Aubrey. Il est tout de même curieux que des gens civilisés en présentent à leur table, dit son frère. Les gens non civilisés présentent-ils quoi que ce soit à leur table? Voyons, mon petit garçon, ne joue pas au plus malin, dit Justine, le chapitrant machinalement en commençant à découper le jambon. Justine et Clément se comprennent, dit Aubrey. « Oh, je vous connais tous par cœur. Après tout, cela n'a rien d'étonnant, puisque je vous ai, pour ainsi dire, tous élevés. »« Oh, loin s'en faut, ma chérie, » dit Blanche en regardant sa fille, la contraction de ses paupières indiquant sa désapprobation. « Tu n'avais que 2 ans à la naissance de Marc. C'est moi qui vous ai élevés tous les quatre, ainsi qu'il est naturel. » « Oh bon, si vous voulez qu'il en aille ainsi, ma petite maman chérie. » « Ce n'est pas seulement que maman veuille qu'il en aille ainsi. C'est ainsi que le monde veut qu'il en aille, » dit Marc. « Du jambon me ferait-il grandir ?» demanda Aubrey. « J'ai bien peur que Clément ne s'inquiète beaucoup au sujet de ma petite taille. » « Qu'importe où se situe Aubrey sur l'échelle des grandeurs, » dit celui-ci. « Je serai toujours ton petit frère, alors tu t'en moques. »« Toujours le petit garçon à sa maman, » dit Blanche en prenant la main d'Aubrey. « La main de maman paraît blanche comme le lys dans ma main brune de garçon. »« Ne nous chamaillons pas pendant tout le petit déjeuner, » dit Justine, l'air de rien. « Ce n'est sûrement pas ce que nous faisons, ma chérie, » dit Blanche, dont les paupières se contractèrent de nouveau. Nous ne faisons qu'avoir une conversation. Nous ne pouvons pas tous avoir le même avis sur tout. Mais vous êtes tous d'avis que je suis loin d'être à la hauteur pour mon âge, dit Aubrey. Encore qu'il n'y ait rien à redire. Je trouvais que la conversation déviait un peu vers des chamailleries. Je ne trouve pas, ma chérie. Je ne vois pas ce que tu veux dire. « Oh, alors moi non plus, ma petite maman chérie, je le disais à toutes fins utiles. » Admettons que la voix de Justine doive être réduite au silence, dit Aubrey. Que ressentirions-nous ? Ne dis pas ce genre de choses, dit sa mère, se tournant vivement vers lui. Je ne suis pas trop en retard, dit une voix de la porte. Vous pourrez vous vanter de m'avoir vue dès la première heure du jour. « Oh, mon oncle !» dit Justine en terrinant l'attrait habituel d'un membre de la maisonnée. « Bonjour, bonjour !» dit une autre voix. « Bonjour, Blanche, bonjour, Justine. Bonjour, mes fils, bonjour. »« Bonjour, notre papa chéri !» dit Justine, se penchant pour présenter les tasses à sa mère. C'est donc le père qui arrive, accompagné de son frère, frère qui, comme vous allez le voir, va jouer un rôle important à un moment donné. Jusqu'ici, vous pouvez penser que nous avons affaire à une famille ordinaire, même si leurs conversations sont un peu bizarres. Détrompez-vous. Continuons la lecture du roman et nous découvrirons que, pour citer un critique, tout ce joli monde se retrouve essentiellement aux heures des repas, pour se balancer des vacheries entre la poire et le fromage, tout en continuant à afficher de grands sourires. Fin de citation. Sous l'apparence de conversations anodines, les protagonistes ne cessent de se lancer des piques. Disons le mot, des vacheries. Et les choses ne vont pas s'arranger lorsque l'oncle Dudley héritera de la fortune de son parrain, un vieux monsieur de 96 ans. Cette famille, que l'on dit bien sous tous les rapports, se déchirera violemment. Méchanceté, médisance, cruauté, cupidité se cachent dans les sous-entendus d'une conversation banale. Il faut lire lentement et dépasser le premier degré. D'ailleurs, on remarque que presque tous les titres des romans d'Ivy Compton Burnett comportent une opposition. Par exemple, en 1929, « Frères et sœurs ». En 1931, « Hommes et femmes ». En 1937, « Filles et fils ». En 1939, « Une famille et une fortune dont nous venons de parler ». En 1941, « Parents et enfants ». En 1947, « Serviteurs et servantes », etc. Comme pour toujours opposer les uns aux autres. Notons aussi que dans les éditions en anglais, il n'y a pas de point-virgule, pas de point d'exclamation, pas d'italique pour introduire les dialogues qui s'imbriquent les uns dans les autres et forment la plus grande partie du roman. Concluons par une citation de Nathalie Sarraute. Compton Burnett est l'une des plus grandes romancières que l'Angleterre ait jamais eue. Personnellement, je pense que c'est faire peu cas des sœurs Brontë, d'Austen, de Virginia Woolf, pour ne citer que celles-là. Et vous, qu'en penserez-vous? Bonne lecture et à bientôt avec une écrivaine du rire, ce qui nous changera, l'écrivaine Barbara Pym.
Of all the birds that I do know, Philip my sparrow hath no peer. For sit she high or sit she low, be she far off or be she near, there is no bird so fair, so fine, nor yet so fresh as this of mine. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. She never wanders far abroad, but is at home when I do call. If I command, she lays on load, with lips, with teeth, with tongue and all. She chants, she chirps, she makes such cheer, that I believe she hath no peer. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. And to tell truth, he were to blame, having so fine a bird as she, to make him all this goodly game without suspect or jealousy. He were a churl and knew no good, would see her faint for lack of food. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet.